Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Un lieu emblématique pour un hommage national.
5 jours après l'assassinat de Samuel Paty, le chef de l'État et la famille du professeur réunis à la Sorbonne pour honorer sa mémoire et son courage. L'enquête, elle, se poursuit. 7 personnes seront présentées dans la journée à un juge antiterroriste, notamment 2 mineurs qui auraient accepté de l'argent pour renseigner l'assaillant. À suivre également Dunkerque, privé de carnaval l'an prochain alors que le virus continue sa progression de manière fulgurante. 70 000 places de parking supprimées à Paris, la capitale toujours plus loin dans sa croisade anti-voiture. Et puis une Ligue des Champions qui démarre mal pour les clubs français.
RTL Matin.
Il sera 19h30 ce soir lorsque Samuel Paty recevra à titre posthume la Légion d'honneur. Cérémonie d'hommage organisée dans l'enceinte de la Sorbonne, 5 jours donc après son assassinat. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
La Sorbonne, un lieu forcément chargé de symboles quand il s'agit d'honorer la mémoire d'un enseignant.
Oui, d'ailleurs le cercueil de Samuel Paty, drapé de bleu, blanc, rouge, fera face aux statues de Victor Hugo et de Louis Pasteur, un écrivain et un scientifique, pour célébrer l'enseignement et le partage des savoirs. On entendra des chants et des textes seront lus par des profs et par des élèves. Tout le déroulé de cette cérémonie d'une heure a été imaginé et pensé en accord avec la famille. C'est Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre de Samuel Paty, qui sera aussi fait commandeur des Palmes académiques. C'est le plus haut grade dans l'éducation nationale. En 2015 déjà, après les attentats du 13 novembre, c'est dans cette cour de la Sorbonne que le président François Hollande s'était recueilli pour une minute de silence. À l'époque, de nombreux étudiants et enseignants avaient perdu la vie. Et à l'époque aussi, déjà, on répétait que la connaissance devait triompher sur l'obscurantisme.
William Galibert du service politique de RTL. C'est Brigitte Macron ce matin qui rend hommage à Samuel Paty à travers un texte. Être prof, c'est développer l'esprit critique des élèves pour les rendre libres. Les mots de la première dame qui fut elle-même enseignante, publiée ce matin par nos confrères du Parisien.
Et on mesure depuis cet attentat, depuis vendredi, à travers les différents témoignages, l'ampleur du combat qui est aujourd'hui celui de nos enseignants.
Ouais, souvent livrés à eux-mêmes face à des thèses qu'ils ont du mal à combattre. Tous, pourtant, ont à cœur de mener cette lutte pour la liberté d'expression. RTL leur donne la parole toute la journée.
Je m'appelle Yves Lioté, je suis un professeur d'histoire-géographie et de MC à Saint-Étienne. On doit continuer à donner la parole aux élèves parce que c'est ça qui, à notre sens, est le plus important. Donner la parole aux élèves pour qu'ils expriment leurs interrogations sur la société et qu'ils échangent entre eux. Voilà, pour moi, le débat au sein de l'institution scolaire est le meilleur moyen de construire des citoyens dans une société démocratique. C'est ça, la liberté d'expression.
Un témoignage recueilli par Nerissa Emani.
L'enquête, elle avance. 7 personnes vont être présentées dans la journée à un juge antiterroriste.
Et parmi elles, 2 mineurs dans un dossier de terrorisme. C'est forcément très sensible. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
2 collégiens, on l'évoquait avec vous hier matin, soupçonnés d'avoir reçu de l'argent pour renseigner le terroriste.
En effet, même si ces 2 garçons n'avaient a priori aucune idée des intentions criminelles du jeune Tchétchène radicalisé, ce qui va poser la question cruciale de la qualification retenue par les juges antiterroristes pour ces 2 collégiens et celle de leur éventuelle détention provisoire. Lorsqu'il arrive devant le collège vendredi après-midi, Abdullah Kantzorov ne connaît pas le visage de Samuel Paty. Il aborde alors 1 ou plusieurs collégiens et donne 300 euros en cash pour qu'on lui indique qui est le professeur d'histoire. On ne sait pas sous quel prétexte, mais la suite dramatique est connue. 5 collégiens en tout ont été placés en garde à vue ces derniers jours. 3 ont donc été disculpés. Le procureur national antiterroriste annoncera cet après-midi lors d'une conférence de presse les suites judiciaires retenues à l'encontre de ces adolescents, ainsi qu'à l'encontre de 5 autres personnes interpellées, dont le parent d'élève qui a posté des vidéos appelant à la mobilisation contre Samuel Paty.
Merci Thomas Proutot. Emmanuel Macron promet lui d'intensifier les actions dans les prochaines semaines. Dès ce matin, en Conseil des ministres, le chef de l'État proposera la dissolution du collectif Cheikh Yassine, un groupement pro-palestinien qu'il accuse d'être directement impliqué dans l'attentat.
Et nous allons continuer d'évoquer cet attentat et les nombreuses questions qu'il soulève. On s'intéressera notamment à nos enseignants. Sont-ils suffisamment formés pour instruire sur ces questions leurs élèves? Enquête avec notre brigade RTL dans 10 minutes. Il n'y aura pas de lancée de harangue l'an prochain à Dunkerque. Le carnaval est annulé, victime à son tour de l'épidémie. On vous explique tout ça dans un instant.
RTL Matin.
8h07, la suite du journal de Dominique Tenza. Il devait démarrer en janvier prochain. Il n'aura finalement pas lieu. Le carnaval de Dunkerque est annulé.
Oui, les organisateurs l'ont annoncé hier. La mort dans l'âme, un déchirement pour cette ville du Nord qui chaque année vit 3 mois, chaque week-end, au rythme de la fête, Antoine Decarne.
Devant les images de la bande de Dunkerque, le tambour-major Pascal Boone, alias Kobunst, la tête d'affiche du carnaval, a encore du mal à réaliser l'annulation.
Je n'imagine pas du tout. Il faut le temps de le digérer, en fait.
Ce sont désormais officiellement 3 mois de festivités qui tombent à l'eau.
Ça nous fait un coup au cœur, même si on savait que de toute façon on allait avoir cette décision, qui est une sage décision, parce que quand il y a des milliers de carnavaleux qui s'entassent, qui se massent, qui s'embrassent, je pense que c'est absolument impossible.
Mais c'est malgré tout difficile pour les carnavaleux comme Quentin, musicien de la bande.
On avait toujours cette petite lueur d'espoir, en fait. C'est un peu une religion pour chaque Dunkerquois, de ne pas jouer les airs qu'on a l'habitude de jouer depuis des années, ça fait mal au cœur.
Même chose pour Émile Hibon.
Je pense qu'il va falloir une nouvelle case, dépression carnavalesque au niveau des arrêts de travail.
Président du groupe carnavalesque des Pelmush, il pense surtout aux associations caritatives qu'il ne pourra pas aider cette année.
On a plein de manifestations qu'on ne peut pas faire, donc on ne peut pas engranger d'argent pour redistribuer, puisqu'on est philanthropique avant tout. Il va y avoir un manque.
On comprend alors d'autant plus pourquoi il sera difficile de laisser les cletches, les parapluies et les perruques dans les armoires.
Antoine Decarne, dans les hôpitaux, la situation est de plus en plus tendue et partout dans le pays, les indicateurs se dégradent. 262 nouveaux décès enregistrés en 24 heures. On n'avait pas connu un tel chiffre depuis la fin mars.
L'échéance se rapproche et à moins de 2 semaines désormais du scrutin, on continue d'explorer les enjeux de la campagne présidentielle américaine.
RTL, la minute américaine.
Avec vous, Philippe Corbet, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va s'arrêter ce matin sur le thème de la santé, car la question de l'assurance maladie est plus que jamais, en cette période d'épidémie, au cœur de la campagne.
Oui, même si les malades Covid sont exceptionnellement couverts, les plus pauvres et les plus âgés le sont de toute façon. Mais avec cette crise, des dizaines de millions d'Américains ont perdu leur emploi et en même temps leur assurance santé qui dépend de l'entreprise. Ils peuvent alors s'inscrire à ce qu'on appelle Obamacare, une couverture santé de base qu'Obama a fait voter dans la douleur il y a 10 ans. Trump avait promis de supprimer et remplacer ce système qui est vu par beaucoup d'Américains comme une étatisation de la santé qui les inquiète. Le président a essayé de le détricoter, le conteste en justice. Donc les démocrates martèle que la couverture santé est en jeu dans cette élection. Il pense que ça peut être l'argument décisif pour la victoire de Biden.
Alors, ça veut dire que si Joe Biden remporte l'élection, il pourrait y avoir aux États-Unis demain une couverture santé comme chez nous en France, universelle ?
Alors, non, Biden promet d'améliorer Obamacare, mais surtout pas de bâtir un système universel tel que le proposaient des candidats plus à gauche comme Sanders dans la primaire démocrate. C'était leur principal sujet de discorde. Mais si les démocrates gagnent largement, Biden sera sous pression de son aile gauche.
Merci Philippe Corbet, correspondant de RTL aux États-Unis. Une capitale sans voiture, le rêve d'Anne Hidalgo est petit à petit en train de prendre forme. Les automobilistes qui, dans beaucoup d'endroits à Paris, ne peuvent déjà plus circuler, ne pourront bientôt plus se garer. La moitié des places de parking vont être supprimées, 70 000 au total, pour y mettre au choix des jardins, des fontaines ou des toilettes publiques. Une décision loin de faire l'unanimité. Reportage Arnaud Touche.
Dans cette rue à sens unique, la nouvelle fait réagir.
Je pense que c'est une privation de liberté déjà.
Alexandre est conducteur de deux roues dont les places disponibles en surface vont également être divisées par deux. Et pour lui, c'est une très mauvaise idée.
Je pense pas que sous quelques années on aura d'autres moyens simples de se déplacer quand on enchaîne des rendez-vous comme moi par exemple.
La mairie de Paris veut d'ailleurs inciter les Parisiens à utiliser les parkings souterrains.
À quel prix ? C'est ça le souci, c'est que parce qu'un parking privé aujourd'hui c'est à l'heure. Ou alors il faut prendre des forfaits mensuels, mais un forfait mensuel c'est excessivement cher, quoi.
Même constat pour Satouri, commerçant du 17e arrondissement qui gare son camion proche de sa boutique.
Au sous-sol, c'est peut-être jouable. Et qui payera ? C'est toujours les mêmes.
Et c'est bien souvent chez les Parisiens qui n'ont pas le permis de conduire que l'idée de réaménager les places de stationnement séduit le plus, comme pour Pascal qui aimerait des...
bicyclables et un peu d'espace vert. Ça permet à une ville de mieux respirer, c'est plus agréable. Les voitures, c'est important, le déplacement, mais il ne faut pas non plus que ça soit le seul moyen de transport. Mais dans ces cas-là, il faut des parkings autour pour que les gens puissent se garer, un peu comme Londres.
Les Parisiens ont jusqu'au 20 décembre pour s'exprimer et dire ce qu'ils veulent définitivement voir fleurir sur leur place de parking.
Reportage signé Arnaud Touche.
Un début de Ligue des Champions, on va dire compliqué, hein, c'est un faible mot pour les clubs français.
Ouais, si le Stade Rennais limite les dégâts, match nul un partout face aux Russes de Krasnodar, le PSG effectivement a été battu hier soir 2-1 par Manchester United. On espère mieux ce soir avec l'entrée en lice de Marseille face à l'Olympiakos. Dans un groupe qui peut permettre raisonnablement à l'OM d'espérer une qualification. Mais prudence pour le gardien marseillais Steve Mandanda.
Il ne faut pas croire que ce groupe est simple. Ça va être compliqué, à part City qui est au-dessus, mais, Mais Porto a aussi une très bonne équipe avec énormément d'expérience aussi. Donc on a vu la saison dernière Olympiakos qui a fait un parcours en Europa League intéressant. Donc forcément, ça va être compliqué. Mais c'est la Champions League, on le sait. À nous d'être performants et de faire le maximum pour sortir du groupe.
Voilà, Steve Mandanda au micro d'Hugo Hamelin.
Et c'était donc le jour.